15h09, on a 14 degrés à Québec sous les nuages. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 418-971-1021. D'ailleurs, Audrey.
Ça commence à ralentir tranquillement si vous êtes sur la capitale direction Est à la hauteur de Robert Bourassa. Henri IV Sud, ça se passe surtout à la hauteur de Charest. Et sur la 20 direction Ouest, léger ralentissement, hauteur Taniata. S'il y a autre chose, 418-971-1021, texto.
Pour rejoindre notre journaliste terrain, s'il y a des trucs à signaler qui méritent notre attention, gênez-vous pas, hein, écrivez citoyen à blvd.fm. D'ailleurs, il est en studio avec nous et aujourd'hui, on a toute une nouvelle à vous confirmer. Mathias Turcotte, salutations distinguées.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
T'es allé voir le ministre des Finances au fédéral?
Oui, François-Philippe Champagne, qui était du côté de la ville de Québec aujourd'hui. Puis on, c'était en fait, la raison pourquoi il était là, c'était une discussion organisée par Québec International avec le monde des affaires.
Oui.
Mais ça, on s'en fout. Il n'y avait rien d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le scrum après, la période de questions avec les journalistes où qu'on peut traiter de différents sujets.
Et François-Philippe Champagne aime parler.
Oui, oui, oui. Beaucoup. Ah ben, j'ai dit discussion. Là, pour avoir...
C'est un monologue.
C'était un monologue. Puis j'exagère pas. Une heure de temps, bon. Trois questions.
Hey, OK, bon, je vois. J'imagine que les premiers questionnements, étant donné qu'on est à Québec, c'est sur le financement du fameux tramway, étant donné que le fédéral est encore vague sur le montant qu'on va donner et plusieurs personnes attendent après ça.
Puis ça revient à chaque fois qu'on a des représentants fédéraux qui viennent en ville, il y a toujours des questionnements sur le financement du tramway, puis il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. On a répété la cassette qu'on est là depuis le début à hauteur d'un 1,44 milliards, qu'on est proche d'une entente, que si Québec veut plus de financement, ben on peut le donner, mais il faut que ce soit dans le cadre de l'enveloppe du transport en commun, toutes les mêmes patentes que d'habitude. Sauf que là, en répétant qu'on était là depuis le début, François-Philippe Champagne a en quelque sorte confirmé une légende urbaine. Je vous laisse entendre lorsqu'il revenait sur les débuts du projet avec Régis Labeaume.
Non, non, mais on était là depuis le début. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labeaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous demanderez, là. On a... Non, non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël.
Le projet de tramway sur une napkin ou le
financement? Ben, non, ben, ou... on avait, ouais, le financement où on était...
Après des années et des années de spéculation, maintenant, vous l'avez de la bouche du cheval, le
drôle.
Financement du tramway a été fait sur le bord d'une napkin.
Hey, je pense aux deux députés libéraux fédéraux de la région de Québec, là. Les deux, ça a dû passer croche quand ils ont entendu le terme napkin, alors que c'est un. C'est le running gag depuis le départ du tramway.
Mis les pieds dans la bouche solide.
Mais je pense que Labeaume l'avait utilisé, cette image-là aussi. L'image de la napkin, c'est pas les. Si mon souvenir est exact, c'est pas les radios de Québec qui l'ont inventé. Ça vient de quelque part. Puis je suis pas mal sûr que c'est Labeaume le premier qui avait fait mention qu'on s'était installé sur le bord d'une napkin puis qu'on avait commencé à sortir des chiffres. Mais là, la napkin est devenue folklorique là, au fil des années. Puis il y a personne qui... Tu sais, à ce stade-ci, il n'y a personne qui veut ramener le projet de tramway à quelque chose qui a été fait sur le bord d'une napkin. C'est très peu habile là, comme communication. Là.
Surtout quand le financement traite de la patte de même depuis plusieurs années. Je tiens à dire, on s'est rétracté du côté du cabinet de François-Philippe Champagne, là, son attaché de presse qui a dit que c'était une mauvaise utilisation de mots.
C'était pas une napkin, c'était un essuie-main.
C'était une figure de style. On s'est même excusé en disant que c'était... une formulation malheureuse. Puis même durant le point de presse, je vous fais entendre le ministre Champagne qui a continué à parler de cette première entente sur le financement du tramway et qui s'est repris sur lui-même sur le terme napkin.
OK, napkin, il l'a pas dit.
Non, non, vous allez l'entendre.
Ce que je voulais seulement vous rappeler, c'est qu'on était dans les premiers. Là. Moi, je me rappelle. Demandez-lui, appelez-le. Vous allez voir, moi, j'étais dans... Quand on avait fait le montage financier là, sur une petite feuille...
Un peu plus, puis il dit un post-it.
Ben oui, c'est ça.
Sur une petite feuille là, avec laquelle on s'essuie. Là.
Bon ça.
Oh, c'est très bon ça.
Il a comme réalisé par lui-même qu'il avait peut-être pas utilisé le meilleur terme possible.
Là. Fait que finalement, ça a été fait sur le bord d'une napkin. mystère élucidé après des années de spéculation.
On passe au...
Non, c'était... Attention, là...
Ça va rassurer personne.
Communiqué de la part du bureau du ministre, finalement, c'était pas une napkin, c'était une petite feuille.
La précision est importante, Denis.
Oh, oui, c'est ça. C'était un apron, hein?
On aurait dû demander au ministre si c'était possible de s'essuyer avec cette même petite feuille-là.
je veux écouter les deux extraits, oui, un vas-y. En arrière de l'autre.
Non, non, mais on était là depuis le début. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labeaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous demanderez, là. Non, non, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël.
Le projet de tramway sur une napkin.
Vous demanderez.
Non, mais on avait... Ouais, le financement où on était... Ce que je voulais seulement vous rappeler, c'est qu'on était dans les premiers, là. Moi, je me rappelle. Demandez-lui, appelez-le, vous allez voir. Moi, j'étais dans... Quand on avait fait le montage financier, là, sur une petite feuille.
C'est tellement c'est drôle. Bon. Oh, yeah, yeah. Vive la politique! Aïe, aïe, aïe.
Puis là, sur une petite feuille, à la fin de l'extrait, il y a vraiment de l'air juste à être rajouté pour dire « C'était pas sur une napkin. » Hein,
mais c'était une petite feuille.
C'était une petite feuille.
Ah, ouais. Ah non, notre c'est scénario, drôle. C'est pas Rocky. Le Rocky s'entraînait sur du bœuf, notre boxeur s'entraîne sur du porc. Pas pareil pour tout.
Tu sais, pauvre lui, tout ce qu'il voulait dire, c'est que le fédéral appuyait le projet avant même qu'il y ait de véritables balbutiements, puis tout ce qu'il fait, c'est nourrir la bête.
C'est de toute beauté. On va rester dans les sujets sérieux. On va parler d'espionnage.
Bien sûr.
C'est toi l'espion, Mathias?
Non, je ne suis pas d'espion.
En tout cas, c'est pas Antonine, là, l'a confirmé ce midi. Antonine Iaccarini n'est pas l'agente double qui espionne le Parti québécois.
Puis je trouve ça drôle que tu parles de sujets sérieux, puis tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi je trouve ça drôle que tu utilises le terme sérieux. Hier, c'est une sortie de PSPP qui a fait beaucoup réagir, puis pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, ça m'étonnerait, là, mais c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon accusant en quelque sorte la GRC d'espionner le PQ, il disait en gros... Donc le Parti québécois qui prennent à l'entrée de leur réunion leur téléphone pour les placer dans des sacs Faraday.
Veuillez placer votre cellulaire dans le sac Faraday, je vous prie, avant de procéder à l'intérieur de la salle.
Le but de ces sacs-là, c'est de s'assurer qu'on ne soit pas écouté, qu'on ne soit pas espionné. On prend ces mêmes sacs-là et on les sort ensuite de la pièce. Double protection.
Attention, nous allons parler de souveraineté. Toute cette conversation s'autodétruira dans 10 secondes. Quelle sera la question référendaire? Qu'y aura-t-il à l'intérieur du livre bleu? Les autocollants promotionnels pour séduire les cégepiens seront de quelle couleur cette année? Et d'autres sujets exclusifs. Paul Saint-Pierre Plamondon est un politicien d'importance sans cesse épié par les méchants Canadiens anglophones. Donnez-moi 10 000 millions de dollars, sinon je vais couler la souveraineté!
Oh, excusez, c'est fini. Voilà. Merci.
Hey, tu t'es pas emballé pantoute.
Place au théâtre, hein? C'est ça, je suis un acteur.
Je veux la musique du Saint maintenant.
Je suis comédien. Du Saint?
De Sainte. Ça aussi, c'est une affaire d'espionnage.
Ben là, j'ai fini moi, mon sketch, là. C'est fini. Là,
c'est terminé.
Là. C'est fini le plaisir. Là. On est ici pour faire du sérieux. Regarde, t'es la fille des nouvelles.
M'excuse.
Ben, j'espère.
Bon, maintenant.
Oui, ben, vas-y.
Tu n'es qu'est-ce que la fille des nouvelles.
C'est ça? Oui. C'est ça?
Alors, qu'est-ce qu'on avait à dire au niveau du méchant gouvernement fédéral sur l'espionnage? On a probablement avoué qu'il y avait plusieurs espions moustachus. Il y a aussi une femme qui dit « l'homme voit » et « l'homme voit plus ». Quelqu'un qui est capable de se fondre dans le décor, comme dans le dessin animé d'Astérix chez Cléopâtre. Des vrais espions, là, comme on les connaît. Oui.
Non, mais c'est intéressant, par contre, parce que François-Philippe Champagne a été questionné sur, je le rappelle, qui est ministre des Finances au fédéral, a été questionné sur le sujet aujourd'hui. Puis au début, vous allez voir, on aurait dit qu'il veut juste tasser la question puis un peu rire du PQ. Mais plus ça avance, puis je vous ai mis plusieurs relances, plus on se rend compte qu'il veut pas vraiment parler du sujet non plus. Là. Je vous laisse entendre le tout.
Il y avait encore la napkin sur le fond de la gorge.
Je pense que oui. Je pense qu'on a des choses sérieuses auxquelles on doit se préoccuper.
Bon, on peut...
Bon, écoutez, c'est, je peux pas. Vous savez, moi, j'ai des choses sérieuses à faire.
Si vous veniez apprendre que la GRC espionnait le Parti québécois, est-ce que vous leur demanderiez d'arrêter?
Comme je vous dis, moi, je fais des choses sérieuses pour
ce qui
les
est pas
gens.
Pas sérieux,
ici.
C'est l'indépendance ou le fait d'espionner un parti indépendant?
Non, mais écoutez, des allégations de part et d'autre. Moi, comme je vous dis, je me préoccupe, je me focalise sur les choses sérieuses.
Ça, c'est le ministre des Finances au fédéral?
Oui.
Tabarnouche.
C'était glissant, patine, sa journée, hein?
Ouais, ouais. C'est comme creuser un trou pour lui-même, puis s'est mis deux pieds dedans. Hein?
C'était pas sa meilleure journée.
Mauvaise journée au bureau. Est-ce que les journalistes à Québec sont plus gossants qu'ailleurs? Je me suis posé la question après la très humiliante performance de la première ministre Charrette quand elle est venue
Fréchette.
Ici. Fréchette. Charrette, ça va bien mon affaire. La première ministre Fréchette, quand elle est venue ici à Québec, là, puis qu'elle n'était pas capable de répondre aux questions.
Elle a été questionnée, entre autres, sur la députée plus libérale, là, à savoir si elle devrait encore être députée. Puis elle disait, bien ça, c'est au chef du Parti libéral de décider. Oui, mais rendue indépendante.
Oui, elle a vraiment bloqué.
Là, ça fait deux fois en deux semaines qu'on a de la visite à Québec, puis ouais. La visite se pète la gueule.
En fait, je pense qu'on est très à notre affaire à Québec en général.
Les journalistes qui couvrent l'Assemblée nationale automatiquement sont réputés pour être un peu plus tough que, par exemple, eux qui couvrent la Chambre des communes. Puis je pense aussi, quand tu as des élus qui viennent, puis que là, c'est des journalistes municipaux, au municipal, on est habitué d'avoir des réponses, hein. On est habitué d'avoir des politiciens qui sont devant nous autres qui nous donnent une réponse. Fait que quand on n'a pas une réponse, on a tendance à relancer, puis à relancer, puis à relancer. Là où que parfois, quand tu es au palier provincial ou au palier fédéral...
Tu n'as pas le choix de lâcher le morceau à un moment donné.
C'est une journée normale pour toi pour avoir une réponse à ta question. Donc, François-Philippe Champagne qui ne voulait pas commenter le sujet, autre le fait que pour lui, ce n'était pas nécessairement des choses sérieuses.
Excuse, Mathias, parce que Maxime est sur le sentier de la guerre, là, littéralement. Il m'envoie des vieux textes. Entre autres, oui, un texte de François Bourque du Soleil qui s'intitule « Non, le tramway n'a pas été dessiné sur une serviette de table ». On écoute François-Philippe Champagne, ministre des Finances au fédéral. Et je salue au passage le sympathique François Bourque.
Non, mais on était là depuis le début. Hey, moi, je me rappelle avec le maire Labeaume, on avait fait ça sur une napkin. Vous demanderez. Là, mais c'est un des premiers projets qu'on avait fait, Joël.
Le projet de tramway sur une napkin ou le financement?
le financement où on était...
On me dit que Karine Gagnon doit brûler la moitié de ses éditoriaux des 10 dernières années parce que ça colle plus avec la nouvelle réalité. La napkin existait bel et bien. Dixit, le ministre des Finances du fédéral.
Je pense que jusqu'ici, on a entendu la main d'en face de Régis Labeaume qui a fait...
Oh. Ah non, mais...
Et puis à deux reprises, hein, vous lui demanderez, vous l'appellerez.
Qu'est-ce qu'il vient de faire, là, lui? Non, mais François l'échappait, là, hein? L'échappé pas mal. On a parlé du prix de l'essence, donc.
Oui, parce que la taxe, pour revenir sur cette fois-ci de vrais sujets sérieux, la taxe d'assises fédérale de 10 cents sur l'essence a été retirée du côté du fédéral pour aider au prix à la pompe.
C'est tout retiré, c'est tout disparu.
Oui, hein, on voit beaucoup d'effets présentement sur le prix de l'essence. C'est difficile.
Le prix moyen à Québec, est-tu de 2 piastres?
Ça doit être autour de ça. Là. Moi, j'en ai vu beaucoup à 1,96,9.
C'est 1,94,9 en moyenne.
OK. Ouais. Ce qui est très élevé. Non, on va s'entendre. La question a donc été posée à M. Champagne. Est-ce qu'on peut être sûr que le 10 cents revient vraiment dans les poches des Canadiens? Puis là, je tiens à dire, c'est vraiment ça la question qui a été posée. Je vous laisse entendre sa réponse.
Mais vous êtes quand même conscient que la situation géopolitique au Moyen-Orient bouge beaucoup. T'sais, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une volatilité et une complexité sans précédent. Nous, on fait notre part, parce qu'il faut savoir que la suspension de la taxe fédérale ou de la taxe d'assise fédérale sur les carburants, c'était notre façon de dire aux gens, on vous a entendu.
Fait que ça, c'est le gars qui gère les finances au fédéral.
Exactement.
Impressionnant.
Donc, pour ceux qui se demandent si on va avoir d'autres mesures du côté du gouvernement fédéral pour le prix de l'essence, on n'a rien dans les cartons.
C'est vide, je peux vous dire.
De toute beauté. Mathias Turcotte, alias OSS 102.1, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Vous pouvez écrire à Mathias à l'adresse citoyen@blvd.fm. Il est 15h25. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Un show qui, littéralement, est créé sur le bord d'une napkin.
Gravel dans le retour.
15h30. Excusez, j'ai un canard dans la gorge. 15h31 à boulevard 102-1, c'est Gravel dans le retour. Audrey, dans la circulation.
Si vous êtes sur la capitale en ce moment, tu m'énerves tellement. Si vous êtes sur la capitale Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Quelques ralentissements sur Robert Bourassa, direction Nord, hauteur Wilfrid Hamel. Si vous êtes sur Henri IV Sud, il y a un certain ralentissement à prendre en compte à la hauteur de Charest, à l'entrée des ponts également. Duplessis Sud, en fait, ça se passe dans la bretelle Charest-Est vers Duplessis. Fait vraiment, dans la bretelle, on sent un gros ralentissement également. Dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions, au ralenti. Quelques problèmes si vous êtes sur route de Fossambault dans le coin de la Jacques-Cartier. Sinon, c'est la 73, direction nord, hauteur de la 20. On commence à sentir que c'est un peu plus compliqué quand vous allez chercher le pont La Porte, direction nord. Guillaume Couture dans les deux directions, dans le coin de Taniata, c'est difficile. 20, direction ouest. Par segment, là, mais il y a comme, mettons, des ralentissements ici et là entre la route du président Kennedy et Taniata. Le plus gros est vraiment dans le bout de chemin des îles. S'il y a autre chose, 88-971-102, texto.
Sam Tremblay-Michaud est en studio avec nous autres, chroniqueur auto et chroniqueur RPM, rpmweb.ca. Salut Sam.
Bonjour.
Comment est-ce qu'il va?
Très bien.
Oui, comme toujours.
T'as bien plus d'énergie que toutes nous. C'est quoi ton secret?
Ouais, donne-nous-en un peu, s'il vous plaît.
Je suis de bonne humeur. Je sais pas.
C'est parce que même des auditeurs, tantôt, quand on posait la question, savoir, on est-tu les seuls à être amorphes? On a eu plein de messages qui disaient qu'eux autres filaient aussi bizarre, ouais. Mais toi, t'es comme, wouh!
Je sais pas, ça va bien. On se prépare pour les tournages des RPM. Je fais plein de recherches sur les autos. Je suis bien dans mon domaine. Je sais pas. Je suis de bonne humeur.
Dans le fond, tout ce que vous présentez là, ça a été tourné. Pendant la période d'été passé?
On vient de terminer de tourner les RPM+, qui est l'émission qu'on répond aux questions des gens le dimanche.
L'émission qui est tout de suite après, là.
Qui est tout de suite après RPM. RPM est terminé, donc tout ce qui est des saisons de voitures qu'on essaie, ça c'est terminé. Et là, on recommence à tourner des RPM pour la prochaine saison. On est bien excités. Notre formule encore, qu'on continue d'évoluer, les deux voitures qui se comparent une contre l'autre.
J'aime beaucoup ça.
Puis là, on retourne sur la piste cette année. Fait que là, ça va fouetter les chars.
Ooh,
oh yeah,
wow.
Fun. J'ai bien hâte.
Puis là, dans les dossiers qui s'en viennent prochainement... tu as travaillé sur, l'ennemi numéro un de la voiture que tu veux garder longtemps?
Oui, la rouille.
La rouille.
Oui, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'on entend parler beaucoup de plein de choses par rapport à l'anti-rouille, par rapport aussi aux garanties anti-corrosion. Et on reçoit des questions un peu partout sur nos différentes plateformes par rapport à des propriétaires de véhicules qui, lorsqu'ils achètent un nouveau véhicule, se font dire « Ah, bien, faites attention parce que si vous faites un traitement anti-rouille sur votre véhicule, votre garantie anti-corrosion ne sera plus bonne. » La garantie anti-corrosion, c'est une garantie qui vient protéger l'état du véhicule pour qu'il reste sain. On parle de rouille intense là, qui pourrait créer des trous dans la carrosserie ou qui pourrait dégrader le véhicule.
Ça fait partie des nombreuses affaires qui nous garochent en vrac avec toutes les affaires à signer. Pis...
Ça fait partie d'eux, sauf que la garantie anti-corrosion, c'est pas le concessionnaire qui vous la donne. Elle vient de base avec le véhicule qu'on achète de la part du constructeur automobile.
Okay. Mais si tu fais traiter ton char pour la rouille, t'es plus... admissible à la garantie.
Du moins, c'est ce que plusieurs personnes se sont fait dire par de nombreux concessionnaires automobiles.
C'est cocon, ça.
Et là, ça, je me suis un petit peu tanné d'entendre ça parce que je me suis dit, on va répondre une bonne fois pour toutes à la question. Et là, je suis parti sur une vraie bérette. J'ai contacté des avocats. J'ai l'Office de la protection du consommateur. J'ai parlé avec des compagnies de produits anti-rouille. J'étais allé chercher des bulletins techniques des constructeurs automobiles. Puis j'ai vraiment monté une recherche exhaustive sur le sujet.
Puis,
pour arriver à la conclusion suivante, non, vous n'allez pas perdre votre garantie anti-corrosion si vous faites un traitement anti-rouille sur votre véhicule.
Fait que quelqu'un qui nous dit ça, c'est de la bullshit.
Absolument.
Dans n'importe quelle circonstance.
Point barre. Faut juste te dire une chose, OK? C'est qu'un traitement anti-rouille, c'est un peu comme l'ensemble des réparations qu'on peut faire sur un véhicule. Si, par exemple, OK, vous changez vos freins vous-même à la maison, il y a des gens qui font encore ça dans leur garage, ce qui est tout à fait correct de faire.
En fait, il y en a de plus en plus, là. On essaie de sauver.
Mais... Exact. Donc, vous faites vous-même le changement de vos freins. Votre moteur est encore garanti. Si vous avez un problème de moteur, votre véhicule, même si c'est vous qui avez remplacé les freins, risque que cette composante-là est encore garantie. Bien, c'est le même principe pour l'antirouille. Si on fait un antirouille sur le véhicule et que votre radiateur explose, ça ne change rien. Ça n'a pas rapport. C'est pas à cause qu'on a fait un traitement antirouille que les autres composantes seront plus bonnes.
Pourquoi ils nous disent ça?
C'est que l'idée, c'est de vous vendre un antirouille directement à partir d'une concession.
Ah,
c'est littéralement ça. Puis c'est là le double discours qu'on entend beaucoup. On va vous dire, là, faites pas d'antirouille ailleurs que chez nous. nous, parce que si vous le faites ici, vous êtes sûr que votre garantie va être correcte. La vraie réponse, c'est que si vous faites un entourage avec des gens qui sont professionnels, qui savent qu'est-ce qu'ils font et qui sont compétents, là, il y a plein de compagnies à Québec, j'en nommerai pas, là, il y en a plein des compagnies qui font de la publicité sur vos ondes, des gens qui font des traitements qui sont spécialisés là-dedans et qui savent très bien quoi faire pour faire les traitements anti-rouille. J'ai contacté des manufacturiers automobiles qui, eux, m'ont dit, ben, si par exemple, on fait des trous dans la carrosserie pour faire le traitement anti-rouille.
Parce que ça existe, ça.
À vrai dire, c'est une des bonnes techniques pour faire un anti-rouille complet, c'est qu'on va percer avec des bouchons ensuite par-dessus pour aller dans des endroits plus difficiles pour appliquer les produits, pour être sûr et certain que les produits vont se rendre aux bons endroits. Ce qui est très courant dans le domaine de l'anti-rouille. Là, il y a des constructeurs comme Stellantis qui nous ont dit, ben, tu sais, s'il y a de la rouille qui se crée autour du trou qui a été fait, ben, celle-là, on ne la garantira pas. Ce qui me semble tout à fait honnête, dans le fond. C'est une modification qu'on a faite au véhicule. Mais le reste du véhicule reste encore garanti par l'antirouille. Il y a pas la garantie anticorrosion reste encore bonne pour toutes les autres composantes. Et ce que les avocats m'ont dit surtout, c'est que ça va être la preuve du fabricant automobile de prouver que le problème du véhicule est relié au traitement antirouille. C'est la job du constructeur. Donc, si jamais, mettons, il arrive de quoi sur un véhicule, puis là, un concessionnaire vous dit « ça, c'est à cause de l'antirouille », ben non, va falloir que le constructeur ait en profondeur, qu'il fasse les preuves claires de cause à effet, que oui, c'est à cause du traitement anti-rouille qu'un problème XYZ est arrivé. J'ai parlé avec des compagnies d'anti-rouille qui en font des dizaines de milliers par année. Ils n'ont jamais eu de retour.
Okay.
Mais c'est jamais arrivé là, que quelqu'un perdait une garantie anti-corrosion à cause de ça.
Puis faut-tu que tu t'ostines comme avec une compagnie d'assurance, mettons?
Parce que moi,
le cauchemar
ça,
de n'importe qui.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait un beau papier qui s'en vient bientôt sur le rpmweb.ca.
Voici l'article de Samuel Tremblay-Michaud.
Voilà! Et ça, c'est padé, là. C'est backé par des vrais professionnels, pas juste
tu
moi.
Tu l'imprimes,
là.
Tu le broches, puis tu le montres au gars.
Oui, exactement.
Parce que je pense qu'on est une couple à avoir décidé de passer de la location à l'achat.
Oui,
parce
oui,
que, bon, tu sais, avec les variations de prix de véhicule, on se dit, bien, regarde, je vais l'entretenir plus longtemps.
Puis
je vais
on va l'étirer.
Le garder. Je vais l'étirer
le plus possible.
Je vais le racheter à la fin de ma location, des fois aussi.
Par exemple, je pense que c'est essentiel de faire des traitements d'antirouille. On les fait quand?
C'est bon. N'importe
chaque
quand.
Année, on
c'est
y a-tu
bon.
Des périodes de l'année, y a-tu...
Moi, je suis un peu fou avec mes chars. Moi, j'y ai fait à tous les années. Mais ça, c'est moi, OK? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui y vont une fois ou deux ans, c'est très bien
t'es
aussi.
T'es pas le commun des mortels.
Non, puis c'est correct, je l'assume. Mais mettons qu'on y va une fois ou deux ans.
C'est vrai qu'elle a l'air un peu fou. Hein,
j'ai l'air un peu fou avec mes chars. Mais une fois ou deux ans, je pense que c'est vraiment un cycle qui est très bon pour les traitements anti-rouille. Après ça, il existe plein de produits anti-rouille. Là, rendu là, c'est une question de religion, des gens qui préfèrent un type à un autre. Rendu là, moi, tant que c'est fait par un professionnel puis que c'est du monde qui savent qu'est-ce qu'ils font, il n'y a pas de problème.
Mettons que tu loues un char.
Ouais.
T'es-tu obligé de faire un anti-rouille étant donné que tu payes déjà beaucoup de sous pour la location de ton char? Dans le sens, est-ce que ça va te mener à payer des sous supplémentaires quand tu vas ramener ton auto?
Très bonne question. Théoriquement, si tu n'as pas fait de traitement anti-rouille, ton auto est déjà garanti par la garantie anti-corrosion. Donc, si jamais tu ramènes ton véhicule et que tu l'as loué dans la période de couverture de la garantie, s'il y a de la rouille, c'est la job du manufacturier de
pas
s'en occuper.
Problème.
Non, exact. Si vous croyez toutefois racheter le véhicule à la fin de votre location, des fois, on a vu un taux plus avantageux en location, puis on se dit, ben, à la fin, dans le fond, je vais le louer pendant 2-3 ans, à la fin, je vais le racheter, faites-le. Ça peut valoir la peine de le faire, le traitement anti-rouille, mais seulement si vous pensez le racheter, si vous pensez louer pour donner les clés, laissez faire ça.
C'était sûr que ça allait ouvrir la boîte à questions. Anti-rouille pour un véhicule électrique, c'est bon, c'est pas bon? On nous pose ça sur le texto.
Ça, c'est la deuxième grosse question qu'on se fait beaucoup poser. Okay. Et dans l'article signé Samuel Tremblay-Michaud qui s'en vient bientôt sur le rtmweb.ca, j'ai couvert de long en large cette question-là qui est très bonne. Ce que je vous résume, dans le fond, c'est qu'un traitement anti-rouille s'applique très bien aussi sur un véhicule électrique.
Le principe, c'est la carrosserie, dans le fond.
Exact. Il y a des manufacturiers. Et d'ailleurs, dans l'article, je vous présente un bulletin technique que Kia a fait, là, qu'on voit là, vraiment qu'est-ce que le constructeur demande. Ils disent, ben, t'sais, nous, on vous recommande d'utiliser des produits qui sont très spécifiques. Il faut vraiment faire attention parce que si le produit anti-corrosion va par-dessus des couettes de fil qui sont souvent identifiées pour la batterie haute tension, qui sont de couleurs plus vives, puis là, on ne voit plus bien les couettes de fil, ça peut être dangereux. On peut enlever des garanties à cause de ça.
Alex vient de nous texter, puis lui, il dit « J'ai acheté un Sorento Fev. »
PHEV.
Mais lui, il fait partie du bulletin. Là.
Il dit « On m'a dit, à cause du système électrique, de ne pas faire d'anti-rouille. »
La réponse, c'est juste savoir ce qu'on fait. T'sais, c'est le même principe que remplacer une batterie d'un véhicule électrique, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc, c'est le même principe. Quand on applique un traitement anti-rouille, il y a des compagnies qui savent très bien qu'est-ce qu'ils font et il n'y a pas de problème parce que votre voiture électrique est aussi composée d'une carrosserie. Là. C'est pas un... C'est pas un char volant.
Par exemple,
le char
identique.
Le char, il vit les mêmes choses qu'une voiture à moteur thermique régulière. La seule chose, c'est que l'application doit être faite par des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Parce que si, par exemple.
Fait que t'es mieux d'aller chez ton concessionnaire.
Ou tu peux le faire chez d'autres compagnies. Oui, tu pourrais le faire chez ton concessionnaire
ça,
si
dans
tu te sens à l'aise. C'est ça. Mais moi, ce que je veux vous amener comme message, c'est que vous avez le droit d'aller où vous voulez.
Mais tu peux pas faire ça tout seul chez vous avec un spray pingainé.
Mais tu pourrais.
Moi, je connais quelqu'un qui le fait lui-même.
Le même principe aussi, que. Mais c'est parce que c'est vraiment salaud.
Ton ex.
Mais c'est vraiment salaud faire de l'entourer, par contre. Tu sauves pas beaucoup d'argent à le faire soi-même. C'est mon message que je vous envoie parce que ça fait beaucoup de dégâts dans un garage. Been there, done that. Faites pas ça.
Tu le diras.
Non, c'est, écoute, c'est épouvantable comment c'est salaud. Donc, ça vaut la peine d'aller voir des compagnies qui sont spécialisées. Mais, tu sais, vous n'êtes pas obligé de passer par le concessionnaire automatiquement. Tant aussi longtemps que vous y allez dans des Crown, des Métropolitains, je peux en nommer, là, des compagnies qui en font, sont capables de le faire.
Garde tes factures, puis t'es correct.
On a commencé en parlant aussi de la garantie anti-corrosion sur notre texto. N'hésitez pas, 418-971-1021. J'ai de la rouille qui est apparue sur mon véhicule. J'ai la garantie anti-corrosion. Ils n'ont pas voulu honorer leur garantie parce que ça n'a pas percé encore.
Ouais.
Évidemment, je vais faire un anti-rouille, mais c'est quoi le but d'attendre que ça perce? Pour honorer la garantie anti-corrosion.
Il y a souvent deux types de garanties qui viennent avec les véhicules et ça dépend des manufacturiers. Il y en a qui sont plus généreux que d'autres à dire « OK, on va le faire la réparation avant que le problème arrive ». Il y en a qui vont entendre vraiment des tirs au maximum pour peut-être se sauver une réparation. Il y en a qui vont vous offrir aussi des garanties d'apparence sur le véhicule, l'état de la peinture, est-ce qu'il y a de la dégradation de couleur qui va arriver plus rapidement que d'autres. Ça, souvent, c'est des garanties qui sont plus courtes. L'anti-perforation est souvent plus longue parce que justement, ça vient avec un temps, la perforation de la carrosserie. Dans ce cas-là, tu sais, souvent, les compagnies, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis c'est pour ça que j'haïs ça, tu sais, quand je vous parle toujours de garantie prolongée, j'haïs ça, ces affaires-là. C'est exactement pour des raisons comme ça. C'est qu'il y a toujours quelque chose, quelque part, qui dit que, bon, dans le fond, si vous ne faites pas ça comme il faut, vous n'allez pas avoir accès à votre garantie. Si, par exemple, on a déterminé sur la carrosserie de la personne qui nous a texté que c'était en lien avec une roche, par exemple, un débris de la route ou que c'est causé par un élément externe à la carrosserie du véhicule, bien là, on va tout trouver raison du monde de dire, bien non, ça, c'est pas garanti. C'est des roches de la route qui vous a créé cet impact-là, qui a fait en sorte que la peinture a levé puis que la rouille a pris. Donc, on essaie des fois de tricoter comme ça. Ce que je peux vous dire, tenez votre bout, ça vaut la peine de l'essayer, ça vaut la peine.
On roule sur des routes, c'est normal.
Je
là.
Sais, ouais. mais c'est ça, la game, entre guillemets. S'il y a de la rouille, par exemple, qui apparaît en dessous d'une poignée de porte, ben là, il n'y a pas de roche qui peut vraiment se rendre là. Là, souvent, ils vont être capables de vous le réparer puis de faire attention à ça.
Hey, t'as énormément d'informations pertinentes, Sam. On jurerait que t'as écrit un texte qui va paraître sous peu sur le site rpmweb.ca.
Imminent, imminent. Ouais,
okay. Moi, j'ai une dernière question parce qu'il y a des gens qui disent, si j'aimerais savoir si c'est grave que j'ai oublié de faire huiler mon auto, mettons, cette année. La réponse est non, j'imagine, si non. Je t'écoute depuis tantôt. Là,
non, puis mais... si vous êtes déjà consciencieux, mettons, en tant que propriétaire, ça veut dire que vous n'avez peut-être déjà fait un. C'est correct. Ben... L'important, c'est de le faire une fois de temps en temps.
Tu sais, mettons, là, je sais pas si cette affaire-là, ça s'accumule, là, mais mettons que moi, ça fait genre 5 ans que je fais ça dans ma vie, des anti-rouilles, puis que maintenant, je suis tannée de payer pour ça, fait que j'arrête. Le fait que j'ai shooté du produit pendant 5 ans, ça reste-tu? Tu comprends ce que je veux dire? Ça protège-tu
ou
mon
c'est comme
véhicule?
Du botox, puis tu fonds.
Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un peu ça, ma question. C'est-tu toujours tes injectables à réintégrer?
Oui,
ça. Ou ça reste dans la carrosserie du véhicule?
C'est une bonne question, à vrai dire. De le traiter, c'est déjà une bonne chose. Ça va dépendre du type de produit qu'on va utiliser. La plupart sont des produits huileux qui vont aller se promener dans la carrosserie. Donc, le but, c'est qu'on va le pulvériser un peu partout. Le produit va se promener dans les cracks du véhicule, dans les endroits qui sont un peu plus névralgiques pour la rouille. Et il va laisser derrière lui, comme un escargot, un résidu de protection qui va comme coller à la carrosserie. Donc, c'est pour ça que des fois, quand vous allez arriver à la maison, il y a des gouttes qui vont tomber en dessous. Moi, pour moi, un anti-rouille qui fonctionne, c'est un anti-rouille qui est salaud, un anti-rouille qui est cochon. Là. Quand on va voir de la cochonnerie
mais dessus
du char,
pas de longueur, c'est ça?
C'est ça. Okay. Ça veut dire qu'on en a mis, puis il faut en mettre plus qu'il faut. Donc, dans ce cas-là, oui, la matière est là, il va s'occuper de faire un certain travail. L'enjeu, c'est que les endroits où on va mettre du produit anti-rouille, c'est des endroits qui sont souvent exposés aux intempéries. Fait que, tu sais, si on prend ton exemple, pendant 5 ans, tu l'as mis, c'est super, t'arrêtes, puis tu regardes ton char dans 5 ans plus tard, c'est sûr qu'il n'y en aura plus de produits. Là. Lui, Mané, il est exposé au
mais l'année
au sel,
d'après, les ailes
ne
tomberont pas.
Exact, là. C'est ça. Ça reste que ça a quand même donné une protection au véhicule pendant
sans
un certain
entretenir.
Temps. Exact. Moi, c'est pour ça que je vous dis, ils ne verront pas fou. Une fois ou deux ans, ça peut déjà être une bonne chose. Au moins, on s'assure de réappliquer un peu puis de sauver bien des problèmes.
Sam, je veux t'amener sur les véhicules électriques parce que l'inquiétude, c'est toujours un peu la même. C'est l'autonomie du dit véhicule. Puis là, il y a un record qui a été fracassé. Puis c'est pas ceux qu'on pense.
Il y a des records qui se fracassent beaucoup actuellement dans les véhicules électriques.
Ben,
faut savoir
normal,
que
c'est
chaque...
le nerf de la guerre.
Ben, écoute, chaque semaine, on casse des records, on en crée des nouveaux. On sait que les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place, les constructeurs qui vont commencer à prendre... beaucoup, beaucoup de place dans l'industrie automobile. Moi, il y a un constructeur que j'ai surveillé beaucoup de proches, c'est BYD. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'en ai déjà parlé,
oui,
je pense.
Oui,
hein?
Oui.
BYD, qui est un constructeur chinois un peu comme un concurrent direct de Tesla. Tesla est un joueur important aussi. Même les Allemands se commencent à se réveiller. Hein? BMW, Mercedes, on commence à arriver avec des produits sérieux. Là. On va mettre sur le marché à la fin du mois le BMW iX3. Là. Donc là, je parle de mise en marché, c'est pas un prototype. Là. Un véhicule qui s'en vient des concessionnaires, qui promet autour de 700 km d'autonomie. Là.
C'est du stock, ça.
Ouais, on commence à avoir quelque chose qui a bien de l'allure.
Et Elon Musk est en Chine,
oui,
présentement.
Oui, il accompagne Donald Trump.
C'est pour faire des acquisitions, ben c'est pour vendre des chars.
C'est pour faire des acquisitions, probablement, ou du moins continuer à développer ses usines. Je pense que je vous en ai parlé la semaine passée là, du Tesla Model 3 autour de 40 000 $ Ça a créé de la frénésie, les gens se garochent et rabais. Ben, ça, c'est un véhicule qui vient de la Chine, justement. Et on va en avoir de plus en plus des produits comme ça qui vont venir casser le marché en termes de prix. Là, c'est le constructeur Lucid Air. Je ne sais pas si vous connaissez Lucid Air.
Hey, j'ai entendu parler de ça pour la première fois en fin de semaine. J'avais jamais entendu
c'est
ce nom-là. Je savais même pas qu'il y avait des concessions au Québec.
Oui, bien, Lucid, dans le fond, c'est une entreprise. Le Air, c'est un produit, OK? C'est une voiture là, qu'on peut utiliser, qui est très populaire, d'ailleurs, qui est très populaire dans son segment. Là. C'est du haut de gamme. C'est un produit qui vient...
tu dis, ça coûte une fortune.
Oui, oui, mais c'est un produit qui a été financé en grande partie par l'Arabie Saoudite. C'est une genre de start-up américaine qui est financée par l'Arabie Saoudite à quelque part là-dedans. Et on veut prendre le marché un peu plus de la berline de luxe. C'est là-dedans qu'on veut travailler. Et cette entreprise-là a réussi à faire quand même 829 km
d'autonomie
sur une charge pleine, selon des tests qu'on a fait avec des ajustements sur le produit. Donc, je pense que ça prouve une chose, c'est que, tu sais, quand je vous en parlais souvent, probablement que la semaine prochaine, ça sera plus bon comme chiffre. Là,
il va en avoir un autre.
Exact. C'est que l'affaire, c'est qu'on dit tout le temps, puis c'est comme ça qu'on essaie d'amener la nouvelle technologie électrique, c'est que le moteur thermique a atteint un certain cycle de développement et tous les ingénieurs mondiaux, là, dans n'importe quel constructeur automobile, nous le disent, on commence dans l'électrique. Donc, ça va aller plus loin, là, c'est sûr. Là.
Quand on teste l'autonomie d'un véhicule électrique, est-ce qu'on le fait dans un circuit fermé qui a toujours les mêmes standards ou...
C'est une excellente question. Ça va dépendre de tous les cycles qu'on va avoir. Nous, ici, on regarde... Il y a des cycles mondiaux comme le WLTP, qui est un cycle qui, lui, va regarder toutes les consommations dans les pays d'Europe et compagnie sous des températures qui sont moins intenses que nous. Nous, on va se fier à d'autres genres de cycles. On va prendre des institutions comme Transport Canada qui vont faire des tests un petit peu plus sévères. On a des tests qui sont faits au Canada également qui vont venir nous donner des... L'EPA, par exemple, qui va nous donner des tests beaucoup plus sérieux en termes d'autonomie parce qu'on va regarder avec la consommation hivernale des produits. Donc, souvent, ces tests-là sont faits, oui, en circuit fermé, mais ils vont être mis dans des situations qui vont être plus régulières d'un pays à un autre.
On
donc, c'est pour ça qu'il faut
extrêmes.
Faire attention. Des fois, on va lire la voiture qui fait 1300 km d'autonomie. Ouais, c'est WLTP. Ça, c'est la norme. Ou est-ce qu'il n'y a pas d'hiver? Est-ce que c'est des routes très plates?
C'est une côte qui descend.
Une côte qui descend avec le vent dans le dos. Puis il y a quelqu'un, un ventilateur. Non,
c'est pas le parc des Laurentides. Là.
Non, exact. C'est ça. Il faut faire attention où on lit nos informations. Nous, la norme EPA, c'est pas mal la norme qu'on va se faire.
Si, mettons, le Lucid Air vous a excité, là, vous dire que le prix de départ au Canada est environ à 95 000 $
Oui! Oh oui!
Ils ont des formats qui sont pas mal plus chers que ça.
Il y en a une à Québec. Il y a un monsieur qui en a une dans le coin de Lac-Beauport. Je la vois des fois, les Rouges Bourgogne. Je vous salue, monsieur. Je vous vois quand vous circulez avec votre Lucid.
C'était le but un peu.
Oui, j'imagine.
Je t'en avais déjà parlé il y a une couple d'années quand je l'avais essayé. Je me demandais à ce moment-là si je voulais aller vers une électrique éventuellement. Puis j'avais essayé genre une i3 BMW, une autonomie genre de 400 km. Oui. Là, puis on va se le dire, c'était comme 180 au final. Là.
Oui.
Puis
ça avait été catastrophique. T'avais stressé à mort.
C'était difficile. Là.
Oui,
c'était
je me souviens.
C'était quelque chose. Et donc, je me posais la question à ce moment-là si je l'achetais usagé parce que je me disais, ah, tu sais, c'est pas la fin du monde, je faisais beaucoup de routes. Puis la réponse aurait probablement été non. Là, j'ai une électrique en ce moment, 2026. Est-ce que c'est un véhicule qui, après la location, vaut la peine d'être racheté ou ça évolue tellement vite qu'on est mieux d'attendre dans
ça,
l'électrique?
C'est l'autre discours qu'on entend beaucoup.
Hein, ben moi, je me pose
quand
la question.
Quand on va acheter une voiture au concessionnaire, ils sont comme « Ouais, mais là, t'as peu, là, achète-le pas, loue-la ta voiture électrique parce que dans 2 ans, la nouvelle technologie va arriver. »
Moi, je me suis fait prendre par ce discours-là.
C'est pas juste mieux pour moi, là.
Non,
c'est mieux pour toi aussi.
Exact,
là.
Donc, loue-le. T'sais, pourquoi tu penses qu'on veut te louer un char autant que ça? C'est que tu vas en reprendre un autre après.
C'est
un cycle infernal. Donc, ne vous inquiétez pas, les produits que vous allez acheter qui sont recommandés, ils ne sont pas tous recommandés. Il y en a 13 sur les 61 actuellement sur notre site web qui sont recommandés dans l'électrique. Ce n'est pas beaucoup parce que c'est des produits qui ont montré leur durabilité.
Kia
Niro EV là-dedans, le Hyundai Kona électrique aussi. Ça aurait été le fun de regarder ça avant la location, mais heureusement, ça a bien tombé. Mais il y a des produits qui ont prouvé une certaine durabilité. Et il faut savoir une chose aussi, puis souvent, il y a une inquiétude de la voiture électrique usagée, c'est de se dire, la batterie va être finie, ça va me coûter 25 000 000$ changer ça. Une batterie, ça se teste. Une batterie, ça se répare par cellule également. C'est... On peut reconditionner certaines cellules de la batterie sans tout changer.
C'est pas comme un vieux iPhone qui ne charge plus et qui se décharge super vite.
Non. Puis là, les batteries ont prouvé leur durabilité. On a de plus en plus de statistiques. Et ce qu'on
c'est une
prouve,
durée de vie de combien de temps, mettons?
Ça peut avoir une durée de vie plus longue que celle de la voiture en tant que telle. Ta carrosserie risque de lâcher avant la batterie. Donc, tu sais, il y a
Je peux l'avoir 10-15 ans, mettons, sans stresser.
Sans problème. Tu vas perdre peut-être un peu d'autonomie parce qu'à un moment donné, la batterie va un peu comme un moteur thermique ou une voiture à essence régulière va s'encrasser, va perdre de la performance. Mais en général, une voiture électrique qui est bien entretenue, que vous avez bien inspectée avant l'achat et qui est composée d'une batterie au lithium-ion, d'une batterie connue, va être correcte pour encore plusieurs années. Ça vaut toujours la peine de vérifier ça au même titre qu'un char à gaz. Là. Ça vaut la peine de faire ces vérifications.
Sam Tremblay-Michaud, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
On va te lire sous peu, rpmweb.ca. Oui. On attend ça avec
ça
attention.
Ça s'en vient vraiment bientôt, c'est pour ça.
Merci pour la dose d'énergie.
Ça fait plaisir.
Il y a des auditeurs qui disent que c'est que tu sens le char neuf tout le temps. C'est pour ça là, que tu restes de bonne humeur.
Yes.
Quand tu restes dans ce buzz-là, c'est toujours
le c'est l'odeur du char neuf.
Probablement. 15h52, s'il y a quoi que ce soit à signaler sur les routes ou ailleurs, évidemment, on compte sur vous. 88 971 1021, c'est Gravel dans le retour à Boulevard.